Bonjour et bienvenue au coin de la table, la chronique de Proxyjeux qui démonte le jeu de rôle. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, on va vous parler du deuxième volet de notre diptyque jeux de rôle et politique. Et cette fois, on va parler des questions un peu de politique, de pouvoir et d'enjeux de pouvoir autour de la table de jeu. Donc on va parler de ce qui se passe pendant la partie et aussi ce qui se passe autour de la partie, les joueurs, le MJ, tout ça. Alors pour m'accompagner, j'ai les habituels Pascal.
Et bonjour.
Et Aurélien.
Salutations.
Alors du coup, une table de jeu, comme tout microcosme social, c'est aussi un lieu de pouvoir, de relations, de tensions personnelles, etc. Est-ce qu'on peut se demander si autour d'une table de jeu de rôle, la position politique de base, c'est pas la position du MJ ?
Probablement, ouais. C'est peut-être pour ça que je préfère être MJ.
Tu aimes le pouvoir.
J'aime le pouvoir, j'aime tenir les vies de mes joueurs entre mes mains. Pardon. Aurélien, t'as un avis là-dessus ?
Non.
Bah, très bien, ça se dit.
Puisque l'organisation de la table de jeu classique, c'est un MJ et des joueurs. C'est le MJ qui va être, on va dire, traditionnellement au bout de la table, tout seul au bout de la table, et les joueurs autour de lui, qui va être derrière son écran, qui du coup, au final, est une sorte de symbole, l'écran qui devient une symbole de séparation des pouvoirs.
Qui pourtant est tout à fait assumé par le cercle constitué par les joueurs, puisqu'on trouve globalement ça ok, d'avoir quelqu'un qui a des indications secrètes, qui va lancer des dés, ou pas d'ailleurs, et qui va décider des choses de façon arbitraire et selon un grand schéma. C'est un des seuls environnements dans lequel on peut accepter ça de façon absolument consciente, tout du moins je pense.
C'est un environnement de travail peut-être, avec une question de hiérarchie, etc. C'est vrai que c'est marrant parce que au moment où tu as dit au bout de la table tout seul, c'est vrai que ça reproduit en plus un peu le schéma traditionnaliste du chef de famille en bout de table qu'on attend, etc.
Ou du patron d'une entreprise qui va être au bout de la table pendant la réunion.
C'est vrai, complètement.
C'est un schéma au final qu'on retrouve partout, d'avoir celui en bout de table qui prend les décisions. Et le MJ, qui c'est sinon celui qui te dit si ce que tu fais c'est valide ou pas. C'est lui qui va valider les actions des joueurs, qui va dire si c'est possible ou pas. Il a un pouvoir sur la partie, et même souvent, évidemment, il y a 40 000 cas particuliers qui prouvent le contraire, mais c'est lui qui va aussi réguler les tensions entre joueurs.
Alors, est-ce que
qui va se faire arbitre.
Tu parles de tensions entre joueurs ou tensions entre personnages ?
Entre joueurs. Les deux, au final, ouais, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà des tensions entre joueurs qui sont régulées par le MJ de par sa fonction diégétique,
Le truc pour manger équilibré.
Ouais, c'est ça. Non, diégétique, c'est tout ce qui a à voir avec la diégèse, donc c'est la fiction. Quand on parle de quelque chose qui est diégétique, c'est quelque chose qui est dans la fiction. Et quelque chose qui est extra-diégétique, c'est hors de la fiction.
Donc en fait, c'est ce qu'on appelle généralement l'extra-diégétique, le méta, en quelque sorte. Qui sort de la table, on casse le quatrième mur.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler de quatrième mur dans le cadre d'une co-construction, comme un jeu de rôle, d'ailleurs ?
On peut parler du quatrième côté de la table.
Quatrième côté de la table. Du coup, si on a une table ronde, on
n'a pas d'extrême. C'est un bouquin de John Wick où il parlait de casser le cinquième mur, que le jeu de rôle était le seul jeu qui cassait le cinquième mur, le seul média, puisque c'est pas l'auteur qui s'adresse directement à toi, c'est carrément les spectateurs qui font le bordel sur la scène.
En effet.
Alors ça voudrait dire que dans le jeu de rôle, il y aurait une notion de spectateur. On ne serait pas tous acteurs.
Il n'y a plus justement. Enfin, ça dépend du jeu, en fait.
Ah, pour moi, c'est évident que tu es à la fois acteur et spectateur. Puisque tu vas prendre plaisir à assister aux scènes, tu vas prendre plaisir à voir la narration, à voir la fiction se dérouler devant toi, et tu vas parfois prendre des décisions qui sont plus des décisions de spectateur que d'acteur. Parce que tu as envie de voir ça.
Ouais. C'est vrai que dans les scènes où tu vas pas être présent ou alors où le focus est mis sur un autre joueur, ou de toute façon tu es spectateur des actions du MJ et des autres joueurs, on est tour à tour acteur et spectateur. Auteur, acteur, spectateur.
Et du coup, c'est le pouvoir du joueur au final.
Ouais.
C'est ça le pouvoir du joueur qui doit après être validé par le MJ, mais ton pouvoir c'est le pouvoir d'acteur. Et si tu dis, normalement, si tu dis à ton MJ, moi je fais ça, un MJ qui te dit non tu peux pas, alors que techniquement, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas, c'est un abus de pouvoir.
Donc, ce qui voudrait dire que potentiellement, se pose aussi sur le côté extra-diégétique, méta, cinquième mur, la dénomination, qu'il y a finalement cette notion un peu un peu extrinsèque, qui est par exemple la fameuse corruption du MJ. On a tous cet exemple en tête de la personne qui apporte la pizza, qui apporte les chips, les slogans type « Sois gentil avec ton MJ ». Finalement, c'est vrai que quelque part, on accepte un rapport de domination, quelque part. Ouais. Genre, je suis le MJ, donc tu me dois des chips, et tu es le MJ, je te donne un paquet de chips. Quoi. Et les chips deviennent un outil politique.
Au point où c'en est devenu une carte dans Munchkin, quoi.
Tout à fait. Ouais, don de chips désintéressés au MJ.
C'est ça. Ou genre, on te donne la plus grosse part de pizza, comme ça tu me fileras plus d'XP. Enfin, c'est des blagues, mais qui au final cachent quand même un rapport de force.
Ouais.
Et mais de domination.
De toute façon, même dans la part des bouquins, c'est écrit, ou dans les des bouquins de conseils au MJ, c'est écrit, ou aux joueurs, hein, c'est écrit si jamais un joueur vous prend la tête pour une raison X ou Y, un autre joueur, etc., vous en référez au MJ. Et le MJ prend la décision, il fait office aussi de médiateur.
Oui, et même, alors là c'est une question ouverte, hein, parce que moi je crois que j'ai jamais eu le cas, quand ça se passe mal à une table de jeu, qu'il y a un joueur qui fout la merde, c'est le MJ qui décide de le virer ? C'est le MJ qui lui fait comprendre que bah écoute là par contre, tu gênes notre partie, il va falloir
c'est que tu dégages. C'est souvent ce qui est sous-entendu en tout cas.
J'ai l'impression aussi.
Parce que peut-être en tant que joueur, on n'a pas forcément cette légitimité, puisque en fait dans le maître du jeu... C'est quand même un terme qui déjà est très puissant, quoi. Il y a une personne qui a la maîtrise de ce qui va se passer dans le cadre du jeu, donc pas forcément dans la narration. Donc il y a un rapport de domination qui finalement se crée par nature.
Ouais. Et de façon intéressante, on peut en vouloir au MJ de ne pas punir un joueur qui dépasse les limites.
Oui, ou quand il y a un problème, typiquement si moi j'ai un problème avec un joueur à une partie, plutôt que d'aller en parler directement au joueur, je vais d'abord en parler au MJ et après en parler au joueur.
Ouais.
Je vais d'abord lui dire, écoute, j'ai un problème avec machin, il fait ça et ça se passe mal, machin bidule. Et après, dans un deuxième temps, soit le MJ va lui en parler, soit c'est moi qui vais lui en parler.
Ouais.
Mais il a un rôle quelque part. Et c'est un rapport de force qui est complètement admis, accepté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce rapport de force, c'est un mandat. Grosso modo, le MJ est mandaté pour la partie de ce jeu-là. Et puis, si on joue à un autre jeu et que c'est quelqu'un d'autre, le MJ, le pouvoir, il va se transférer.
Ouais. C'est la campagne du MJ, quoi.
Et pourtant, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Guylaine. Moi, j'ai personnellement pas eu de problème en tant que joueur à des tables avec d'autres joueurs qui posaient problème. D'ailleurs, en tant que maître jeu, non plus. J'ai eu aucun joueur qui posait problème et je ne pense pas avoir vu de situation d'inconfort de la part des joueurs. Si j'en ai vu, elles me sont passées inaperçues. J'espère que non. Et c'est vrai que moi, intuitivement, je me serais dit qu'au contraire, j'irais plutôt voir l'autre joueur pour finalement essayer de régler ça de façon collégiale, d'une façon où on est à égalité, même par rapport au MJ, en fait. Je me sens quelque part, de façon plus justement méta, souvent à égalité avec le maître du jeu. Et je pense que c'est le cas de pas mal de joueurs, quoi. En fait, quand on joue au jeu de rôle, souvent, pas tout le temps, hein, et je pense qu'on peut introduire une nouvelle notion là-dessus, c'est la notion de cercle social avec qui on va jouer. Quand on joue à un jeu de rôle, on va jouer avec, globalement, des amis, des inconnus ou un mélange des deux. C'est assez binaire. Alors, se pose aussi la question de qu'est-ce qui se passe si je joue à un jeu de rôle avec quelqu'un que je n'apprécie pas dans la vraie vie. Ça peut être un sujet assez intéressant. Mais jouant personnellement plutôt au jeu de rôle, en tout cas en tant que joueur, en fait, en tant que maître jeu, je joue pas mal avec des inconnus, notamment dans le cadre de Murder Party. En tant que joueur, je joue avec des amis principalement. Et quand je joue avec des amis, on a une notion finalement de cercle social bienveillant où les problèmes ne se posent pas et se résolvent en fait de personne à personne, peu importe qu'on soit MJ ou joueur. Peut-être qu'avec des inconnus, ça serait différent par contre.
Oui, parce que les cas qui me viennent en tête, moi, c'était des joueurs qui n'étaient pas mes amis. Tu vois, si j'ai un problème avec un joueur que je connais qui est mon ami, là, je pense que je passerai pas par le MJ.
Ouais,
mais si la personne en face, c'est quelqu'un que je connais pas trop, c'est une connaissance, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un ami, tu vois, genre on joue en convention, des trucs comme ça, c'est peut-être plus délicat. Ouais, c'est pas pareil. Là, la présence d'un arbitre peut éviter de cristalliser des problèmes qui vont ressortir dans la partie, en fait.
Ouais.
C'est juste, non, mais il y a un problème X et c'est pas grave, on peut en parler, on peut le régler. Mais du coup, s'il y a un arbitre, justement, ça peut aider à ce que ça coule bien plutôt que ça se cristallise et qu'il y ait un sentiment d'agression tout de suite.
C'est plus, quelque part, c'est plus le rôle du MJ, en fait, qui sert de catalyseur, ce genre de choses, que le MJ en lui-même, que la personne MJ.
Oui, c'est le statut.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Alors, on trouve quelque chose d'assez étonnant et d'assez intéressant, tout du moins, hein, parce que ça veut dire que le MJ aurait quelque part un rôle de facilitateur. Donc, finalement, ce rôle qu'on retrouve pas mal aussi au cœur de pas mal de débats, on va dire, métapolitiques au sein de notions comme Nuit Debout aussi, ou aussi en bibliothèque. Le rôle de facilitateur, c'est finalement le rôle de la personne qui va créer et alimenter un cadre bienveillant pour que les gens puissent se sentir à l'aise et épanouis quelque part.
Totalement. Et en plus, je pense que c'est un rôle de facilitateur qui est de plus en plus assumé dans le jeu rôle. Et pin-pin-pin-pin-pin-point-bimbo. C'est carrément écrit dans la règle de bimbo que le MJ en fait est un peu, fait un peu que du damage control sur ce que les joueurs peuvent faire, parce que les joueurs peuvent carrément veto une scène ou des trucs comme ça, et qu'il est un peu en mode bon bah de toute façon les joueurs vont faire n'importe quoi, alors voilà. Et du coup c'est vraiment assumé ce côté de les joueurs sont les vrais acteurs, ce sont les vrais écrivains, tu leur donnes une situation de départ mais c'est eux qui font le truc. Le MJ il est là pour faire en sorte que bah ça ressemble à peu près à quelque chose mais pas plus.
Et ça voudrait dire que la compétence, ça, le maître-jeu devrait en plus avoir, en plus de la notion d'improvisation, de la notion de création de scénario, ou pas d'ailleurs, devrait avoir une notion supplémentaire, une compétence en plus, qui est la compétence bah, de facilitateur, ce qui finalement est quelque chose d'assez complexe.
Complètement, je pense que dans le rôle de MJ, tu as de façon indispensable un rôle social et de communication entre les joueurs, et c'est complètement indispensable.
Alors, je ne dirais pas que c'est complètement indispensable, je dirais qu'il y a plusieurs styles de jeu, plusieurs styles de maîtrise, et je pense que pour des jeux comme Bimbo, c'est indispensable. Mmh. Mais que si tu fais Dungeon Crawler, où le MJ est là pour apporter les éléments fictionnels, c'est peut-être pas forcément obligatoire, surtout si les joueurs autour connaissent bien le jeu, etc. Mais par exemple, on peut voir une situation aussi évoluer selon un point de départ. Nous, on avait fait une grande campagne d'Itrasby, et au final, le MJ nous a dit à la fin que bah non, mais il servait plus justement de facilitateur et de médiateur, il servait plus à fixer un cadre et à interpréter les PNJ, et qu'après, la fiction se portait d'elle-même par les joueurs, parce qu'on avait aussi une possibilité d'apporter des éléments constants à la fiction. Et du coup, j'en profite pour poser la question, du coup, les rapports de force et de pouvoir dans les jeux où il n'y a pas de MJ.
Et oui, oui, parce que pour le coup, on n'a pas, alors peut-être de façon, en tout cas évidente, me semble-t-il, pas bah, voilà, un rapport d'autorité clair avec quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que dans une notion de groupe, il y a toujours une dynamique sociale qui va se créer? Mais est-ce que la dynamique sociale qui va se créer, c'est vraiment une question ouverte là-dessus, n'ayant moi-même, mon Dieu, c'est le même révélation, pas de pratique du jeu de rôle sans MJ.
Pardon.
Ah bon, c'est vrai?
Oui, par contre, le jeu de société sans MJ, par contre, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même quelque chose aussi dans le... Bon, je parlerai des jeux de société plus tard, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Mais sur le jeu sans MJ, j'ai peut-être l'impression que des dynamiques de groupe vont se créer, mais sont-elles des dynamiques de groupe entre personnages, entre joueurs, ou un peu entre les deux?
Alors, pour ma pratique des jeux sans MJ, très souvent, la question du pouvoir va être régulée par le droit de parole. Et par qui peut parler, qui peut dire quoi, et qui peut interpréter quel personnage, par exemple. Donc, je vais prendre l'exemple de Polaris de Ben Lehman, qui est un peu l'exemple classique quand on parle de jeux sans MJ, où, grosso modo...
Que nos auditeurs fidèles, d'ailleurs, reconnaîtront de nos différents épisodes précédents.
C'est un peu le fil rouge, quoi. C'est le Easter egg caché partout. Quand on joue à Polaris, il n'y a pas de MJ, on est tous des joueurs, on est tous un personnage... Mais on n'est pas que ça, parce qu'on interprète aussi les PNJ de la vie des autres personnages. Donc moi, alors par exemple, moi je suis assise ici, le joueur qui est à ma gauche va jouer tous les personnages, alors je ne sais plus exactement lequel est lequel, hein, va jouer tous les personnages qui sont liés à l'affect, au personnel, à la passion, à l'intimité. Et le joueur qui est à ma droite va jouer tous les personnages liés à la hiérarchie, au côté militaire, professionnel, aux choses très officielles, etc. Donc on a une répartition de la parole qui indique qui a le droit de dire quoi dans la bouche de qui. Du coup, au final, on a les règles viennent instaurer une hiérarchisation des pouvoirs de parole et des pouvoirs narratifs, quelque part.
Alors, ce que je crois pas, c'est que si quelqu'un, par exemple, incarne la partie affect, la partie lien, par exemple, familial, finalement, ne peut-il pas, en tant que personne, avoir un... créer en tout cas un rapport de domination dans un sens ou dans l'autre, hein, supérieur à ce que par exemple, ou inférieur à ce qu'une personne hiérarchique pourrait faire. Alors, si par exemple moi je suis le frère ou la sœur, je sais pas, de ton personnage, est-ce que je peux pas le jouer de façon plus finalement plus dominante ou moins?
Les problèmes que j'avais avec ce jeu. Ça fait partie des choses. Alors, en fait, je parle beaucoup de Polaris de Banlewan parce que je le trouve très intéressant, mais moi, personnellement, j'ai pas trop aimé ce jeu. Ouais, c'est un peu ma révélation. Moi, j'ai pas trop aimé le Polaris.
Bon, une révélation chacun, Pascal, on attend la tienne.
Mais par contre, il est très intéressant et il propose des choses très intéressantes et je m'en inspire énormément. Mais je trouve en effet que ça fait partie des problèmes. C'est que c'est pas très très clair. En fait, tu prédéfinis, du coup, tu dis ok, bon, bah moi, du coup, je vais jouer un tel, et tu gardes toujours le même personnage. Mais pareil, si le personnage qui est un supérieur hiérarchique pour le personnage X, mais qui est le frère du personnage Y, et que c'est pas la même personne qui est censée jouer le même personnage, parce que c'est pas dans le même rapport au personnage principal de la scène, ça devient de la misère. Je veux dire, ok, je suis la sœur de Paul, mais je suis aussi la supérieure de Jacques, donc bah, je vais peut-être jouer tout le temps ce personnage-là. Enfin bon,
c'est pas les mêmes personnages, forcément.
Bah, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, c'est la personne qui a... Alors, on est quatre à table. La personne qui est à ta droite est censée jouer ton frère.
Oui.
Sauf que ton frère, c'est aussi le supérieur hiérarchique de la personne qui est en face de toi à table. Tu vois ?
Oui, ça provoque... Bah, c'est à la fois limitant, mais c'est aussi intéressant.
Personnellement, je trouve que ça finit en étant un gros bordel.
Ouais, s'il y a deux joueurs qui jouent le même personnage.
Puis ça fait beaucoup de personnages à jouer par personne.
Dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, mais comment est-ce qu'on définit justement ces personnages ? Parce que après, c'est peut-être justement un problème de la narration partagée que les gens n'ont pas fait assez gaffe. Parce que justement, on retrouve plus ou moins ce même problème dans Fiasco, un autre jeu sans MJ. D'accord ? Sauf que bon, on ne crée pas de son personnage, on crée que les relations entre les personnages. D'accord ? Et après, on finit par dire, non mais attends... la relation que vous avez vous deux, elle correspond à peu près à la réaction que machin, donc en fait on pourrait faire ça comme ça, tu vois. Genre, il y a une relation entre vous deux, il y a une relation familiale, entre, s'il y avait un quatrième joueur qui... L'ordinateur, voilà. Donc, quatrième joueur d'origine japonaise, Toshiba. On va pas faire de pub, en fait.
Bonjour Toshi.
Et il pourrait, voilà, avoir une relation entre... Il pourrait avoir une relation entre Guylaine et Toshi, et du coup, par défaut, on pourrait dire, ah ben, en fait, du coup, ça fait qu'entre Aurélien et Toshi, il y a un truc qui se passe.
Sauf que t'as pas le droit de mettre deux feuilles au milieu de la table pour la relation.
Exactement, mais c'est juste ça découle du truc, quoi.
Oui.
Donc, c'est pour ça que moi, du coup, comme j'ai que l'exemple de Fiasco, ça me paraît pas un problème. Mais est-ce que dans Polaris, justement, la façon dont on construit justement les PNJ est problématique par rapport à ça ? Ou est-ce que c'est juste que c'est les joueurs qui se sont mal organisés au niveau de la création des PNJ ?
J'en sais rien. C'est une bonne question, j'ai pas la réponse.
En fait, il n'y a pas de trucs qui sont écrits dans les règles.
Je ne sais plus.
D'accord.
Je ne saurais pas te répondre là. Mais ça me fait penser à un truc quand tu parles de Fiasco. Pour repartir sur la question des enjeux politiques et décisionnels autour de la table, Fiasco, c'est un jeu qui fonctionne par scène. Chaque scène est centrée sur un personnage et on tourne autour de la table. Donc ça va être d'abord centré sur Pascal, puis sur Aurélien, puis sur Guylaine. Quand c'est ta scène, tu choisis si tu présentes ta scène, si tu ouvres ta scène.
C'est établir ou
établir, voilà. Ouais. Si tu établis ta scène, donc c'est toi qui poses le décor, c'est toi qui poses la situation de base de la scène, mais par contre c'est pas toi qui décides de la fin, de comment ça finit. Ou alors si tu la résous, donc tu laisses les autres joueurs décider du contexte, et c'est toi par contre à la fin qui décide si ça se passe bien ou mal pour ton personnage. Et là, ce choix-là, ce dilemme-là, il a déjà toute une portée... on va dire, une portée politique des enjeux narratifs, on va dire des gros mots, parce que déjà, de base, tu décides où est-ce que toi, tu places ton pouvoir et quel pouvoir tu donnes aux autres joueurs sur ton personnage. Et je trouve ça très intéressant et je trouve que ça fait vraiment partie de tout le sel de Fiasco. Quand ton personnage est dans une merde monstrueuse et que tu arrives à ta scène et tu dis, putain, merde, est-ce que je les laisse établir ou est-ce que je résous ? Ah, mais s'ils établissent, ils vont me faire un truc tout pourri, mais... Ah, je trouve ça très, très intéressant.
Après, les règles de Fiasco, des fois, font en sorte que ça vaut mieux pour toi que ça se passe mal.
Oui, c'est vrai. Mais là, du coup, on est dans des calculs. Pourquoi,
Moi, ça me fait penser à quelque chose d'autre pour revenir sur le côté rapport entre joueurs, finalement. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est les rapports entre les différents joueurs autour de la table. Bon, c'est peut-être aussi le passif, finalement, un peu pas mal jeu de société. Hein. Dans le jeu de société, c'est globalement un jeu de rôle sans MJ permanent. Oh là là. Donc on va censurer ce passage. Non, à mince, on peut pas, on est en live. Très bien. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est très intéressant dans le jeu de société où finalement on a un set de règles qui est établi, qui est transmis plus ou moins approximativement aux joueurs qui sont autour de la table, donc parfois de façon parfaite par rapport aux règles établies, parfois on interprète différemment. Bon, vous voyez l'idée. Et par contre, on est dans ce cadre a priori égalitaire, sauf que, bon, par exemple, on peut prendre l'exemple un peu typique qu'on a déjà pris du jeu coopératif, où pour beaucoup d'entre eux, on va avoir un rapport de domination, un power player qui va se mettre en place. Le power player, c'est la personne qui sait. Donc soit qu'il y a déjà de l'expérience dans le jeu, ou dans les jeux coopératifs, ou les deux, ou alors qu'il y ait une personne qui dans la vie s'impose et qui va potentiellement prendre le lead, en fait, va être moteur sur l'intégralité du jeu, et on va se retrouver dans un « Ah, moi, alors toi, du coup, toi, tu fais ça », et c'est lui qui va jouer pour tout le monde. Et là où je me questionne particulièrement, que ce soit sur le jeu de société ou le jeu de rôle sans MJ plutôt, mais pas que, c'est sur les notions finalement de domination entre personne autour de la table dans le cadre du jeu de rôle. Si par exemple, un exemple tout bête, je joue à un jeu de rôle avec mon patron. Voilà, j'ai mon patron, mon supérieur hiérarchique direct, dans le cadre, allez, pourquoi pas, poussons un peu d'un team building, donc c'est dans le cadre de l'entreprise. Est-ce que je vais oser finalement faire des crasses ou pas d'ailleurs à mon patron? Comment est géré, enfin, à votre avis, ce rapport hiérarchique ou émotionnel aussi?
Le truc, c'est que là, on rentre vraiment dans le domaine du domaine du personnel, et donc ça dépend énormément des situations, des personnalités. C'est vrai que le problème des relations entre joueurs, bon, t'as cité un exemple un peu extrême, je pense.
Si peu.
Ouais, voilà. Après, c'est vrai que par exemple, qu'est-ce qui se passe quand c'est un couple qui joue ensemble, un couple ou autre, ou des relations, ou l'influence que ça peut avoir, quoi, sur le jeu.
Ouais, enfin, c'est une situation classique des stéréotypes rôlistes, de se dire, y a un couple à la table et du coup, ils s'entraident entre joueurs alors que leurs personnages n'ont aucune raison de s'entraider, par exemple. Ouais, voilà. Ce genre de choses. Donc les relations peuvent se refléter. Ou alors, si t'as une tension avec quelqu'un dans la vie réelle, elle peut ressortir au milieu du jeu alors que, c'était pas le sujet de non, vos personnages sont les meilleurs amis du monde. C'est vrai que c'est difficile de réussir à justement garder cette distance, cette distanciation entre les relations des joueurs et les relations des personnages qui viennent déborder dans la fiction.
Et alors, comment faire pour peut-être justement, et c'est quelque chose d'assez vaste, garantir au maximum, et là on retombe un peu sur le facilitateur, garantir que le jeu de rôle soit un espace vraiment interne, une espèce de grande bulle et peut-être une sorte de zone un peu safe aussi par rapport, je pense à la domination hiérarchique parce que c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a d'autres, typiquement les rapports de domination classiques sociétaux, donc genre, race, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garantir qu'il n'y ait pas de problème qui se crée par rapport à ça, quoi.
Encore une fois, on revient sur le côté, s'il y a MJ, c'est MJ de gérer ça, s'il n'y en a pas, c'est une décision collégiale, collective et de tout le monde, quoi.
Oui, ou tout simplement, le MJ peut, au début de la partie, déjà faire une sorte de disclaimer, discuter un peu des choses, établir, faire des petits rappels tout bêtes comme je vous rappelle que là, on va jouer, on laisse dehors les tensions, je veux pas voir à la table débarrouler telle engueulade que vous avez eue la semaine dernière. Enfin, ça fait encore un rôle de médiateur et d'arbitre dans les mains du MJ, qu'il ne souhaite peut-être pas, mais en même temps, si c'est un joueur qui le fait, je m'imagine cette situation, on a une table de jeu de rôle, il y a 4 joueurs à MJ, on s'apprête à commencer, là il y a un des joueurs qui dit « Bon bah alors par contre, je vous préviens, on laisse les problèmes dehors, etc., machin et tout », qui fait une petite mise au point pour faire des petits rappels, ça peut être pris de manière agressive, genre « Non mais pour qui il se prend celui-là, machin et tout », ça peut aussi ne pas être le cas, mais au sein d'une table de jeu de rôle, ça veut dire que tout de suite, il y en a un qui change sa posture dans la hiérarchie de la table, entre guillemets.
S'il le fait, en tout cas, de façon ouverte avec la table.
Oui.
Ouais. Après, je sais pas, s'il y a un mec ou une nana qui je sais qu'il y a eu un problème avec le joueur, je dis bon, est-ce que ça va aller, machin, je vois en privé, en tant que joueur, en tout cas. Après, si c'est en tant qu'MJ, je ferai un message général.
Oui.
Ça, c'est clair.
Mais moralité, il faut toujours prendre des gants, au final. Et je pense que quand tu es à une table avec des gens que tu connais, en qui tu as confiance, même si tu es joueur et qu'il y a quelqu'un d'autre qui MJ, tu peux dire des choses. Il ne faut pas non plus censurer et dire « Ah ben non, je suis joueur, ce n'est pas mon rôle de parler de ça. » Non, c'est un truc qui te gêne, tu as le droit de le dire, tu as le droit d'en parler avant. Et il vaut mieux faire une mise au point et à la rigueur que tu puisses potentiellement passer pour un rôle ou quoi, mais si ça permet de faire bénéficier toute la tablée... d'un sentiment de sécurité.
Ben justement, sur ce sentiment de sécurité, je rebondis sur un truc qu'on trouve pas mal, notamment en freeform et en GN, qui est le safe word.
Ouais,
ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, cette notion de dire, quand on est dans une situation quelconque qui nous met mal à l'aise pour une raison quelconque, qu'on n'a pas justifié, bah, on prononce un safe word ou on fait un geste pour dire stop, stop, là je rentre pas dans ce jeu-là, je peux pas, je veux pas, ça, on s'arrête tout de suite, stop. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement, je pense, important à mettre en place dans des situations qui peuvent particulièrement devenir un peu touchy, quel que soit le jeu de rôle, quoi, hein, quelle que soit la sensibilité des joueurs. Et dans le doute, le fait de mettre un safe word en amont, bah finalement, je me dis intellectuellement, parce qu'après, c'est vrai que ça implique d'autres choses, mais le fait de se dire, dans tout jeu de rôle, au début, le maître du jeu dit, bon, il y a un safe word qui existe, vous pouvez le dire à tout moment, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir une porte de sortie.
Carrément. Même sans l'utiliser, le fait simplement de savoir qu'il y a un safe word, de savoir que si t'es mal à l'aise à un moment, il y a une porte de sortie, ça suffit en soi à sécuriser l'espace et à faire que... bah, tu te sens plus en sécurité parce que tu sais que c'est un moyen qui est mis à ta disposition et que tu peux utiliser sans honte et sans gêne, parce qu'aussi, il y a cet élément-là, c'est la pression que tu te mets à toi-même pour rester dans le moule, à te dire « Ah ouais, non mais attends, je vais pas faire ça, ça va péter l'ambiance. Si je leur dis que je suis mal à l'aise et que j'aime pas ces sujets, je vais passer pour la grosse relou, machin. » C'est des choses qu'on peut ressentir et, faut pas négliger le pouvoir de la pression sociale à une table de jeu. Même sans parler de thématiques touchy qui peuvent te mettre mal à l'aise, zut, j'ai pas compris la règle, mais ça fait deux fois qu'on me l'explique, mais on me l'explique vite, et du coup j'ai pas compris telle règle, je suis sûre, c'est évident qu'il y a plein de gens qui n'osent pas redemander à ce qu'on explique la règle, parce que non mais attends, les autres ils vont dire qu'ils vont penser que, enfin, je pense qu'on s'auto-censure énormément.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça apporte aussi un éclairage supplémentaire sur la notion de maîtrise finalement du jeu et la domination sociale, enfin du coup c'est plus social, au sein du rapport de domination au sein du jeu, et donc je pense notamment pas mal aux jeux de société, mais par rapport à la maîtrise de la règle. Ouais. J'ai eu une situation assez déplaisante où sur une convention, en fait, sur une partie de jeu de société qu'on avait commencé à lancer avec des amis, il y a une personne qui s'est pointée sur le côté et a commencé à nous appuyer dans l'explication, un exemple très savoureux que je ne taillerai pas en détail, qui a commencé à nous expliquer les règles un petit peu plus en détail parce qu'on n'avait pas compris, sauf que nous on était juste en train de découvrir le jeu, et puis qui au fur et à mesure qu'on jouait et qu'on faisait des erreurs dans la partie, commençait à nous engueuler, en fait, à dire non mais c'est pas comme ça, je vous l'ai déjà dit. Donc bon, une personne évidemment, en tout cas qui dans cette situation était hautement toxique, et bon, on lui a demandé de partir, hein, tout simplement, mais ça aurait très bien pu se passer dans le cadre de certains jeux où une personne connaît mieux le jeu et donc du coup va être plus expérimentée, va avoir plus de légitimité, être une sorte de leader implicite même dans des jeux compétitifs, et ça peut aussi être un problème, effectivement.
C'est, oui. Au final, on retrouve souvent cette situation où dans le jeu de société, le MJ, c'est celui qui connaît les règles, ouais. Au final.
Dans des jeux avec des rôles asymétriques, il y a souvent un rôle qui est réservé à la personne qui connaît déjà les règles.
Ouais.
Je pense par exemple à mon XCOM, qui est un jeu que je trouve très intéressant, parce que c'est un jeu en coopération, mais timé. Donc en fait, contrairement à des jeux comme Pandémie, la version normale en tout cas, il y a moins la possibilité qu'un joueur prenne le rôle de leader. Tout simplement parce que comme c'est timé, chaque joueur a genre 10 secondes pour faire son action, tout le monde doit réfléchir en même temps ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Donc t'as pas le temps de dire non mais attends, tu devrais faire ça, etc. machin, parce que t'es tout le temps en train de faire tes trucs. Donc, peu importe. Mais t'as un des rôles qui est l'officier des communications, et c'est le mec qui joue, il a l'application justement qui time les trucs, et il doit transmettre aux autres joueurs les informations du genre commandant, il y a deux ovnis qui arrivent au-dessus de l'Afrique du Sud. Des officiers scientifiques affectés au développement d'eux, etc. Et souvent, bah, du coup, bah, c'est le joueur qui prend le rôle, c'est le joueur qui connaît le jeu. Donc, du coup, c'est toujours moi et j'en ai marre.
C'est souvent. Enfin, c'est vraiment une situation qu'on retrouve souvent. Et là, récemment, j'ai fait un GN qui s'appelait View Scream. Et pareil, il faut qu'il y ait une personne qui a le rôle que tu décris, qui sert de relais, qui coordonne la parole des différents joueurs, etc. Même si le MJ, on l'appelle le bridge, il est aussi joueur, c'est quand même lui qui doit coordonner. Ben, clairement, c'est la personne qui doit avoir déjà lu le jeu. Et du coup, j'en ai fait deux parties. La première partie, c'était la personne qui avait acheté le jeu, donc qui était celui qui l'avait lu, etc. Même si en soi, c'est un jeu très court, donc on l'avait tous lu, mais en tout cas, c'était lui qui était à l'origine de la partie, etc. Et pour la deuxième partie, ben, j'ai pris le relais parce que lui, il voulait essayer des joueurs aussi en face, quoi. Et du coup, j'ai dû relire les règles. Et c'est vrai que moi-même, tu vois, je me mettais une pression, genre, attends, faut bien que je connaisse, vu que c'est moi qui dois faire le relais. Faut que je maîtrise les règles et tout pour pouvoir expliquer. Alors qu'en soi, on pouvait tous demander des choses. Et est-ce que c'est vraiment justifié?
Ouais. C'est ce côté-là aussi, justement, dans le jeu de rôle de manière générale. C'est on dit, voilà, le maître de jeu, c'est celui qui doit connaître les règles.
Et c'est celui qui a le bouquin.
C'est celui qui a le bouquin.
Très souvent c'est celui qui a le bouquin.
C'est lui qui l'a acheté, c'est vrai. Et souvent, bon, après, ça dépend vachement des joueurs, mais tu as des joueurs qui posent la pression. Ça pose la question aussi, est-ce que pour certains jeux, il vaut mieux pas que, justement, il n'y ait que le MJ qui connaisse les règles, tu vois, pour qu'il puisse, justement, avoir le loisir de dire, fuck it, cette règle-là, elle me convient pas, j'en fais ce que je veux, ou je l'ai oublié, c'est pas grave. Alors que dans des jeux plus techniques, genre Donjon 3.5, Pathfinder, tout ça, tu vas te retrouver souvent avec des avocats des règles qui, voilà, donc non, mais dans le bouquin, c'est écrit que si t'es à 3,50 m de la cible et que le vent par souffle nord-nord-ouest, voilà, exactement, ouais, et que machin, que, et ton personnage est machin, donc il a un bonus de 0,5 d'or.
Attends, là, je suis. C'est le système des couvertures dans Donjon 3.5. Là, je suis couvert à 40%, du coup, j'ai un bonus de défense. Okay.
Non, car on est en automne, les feuilles du bosquet sont tombées, tu n'es couvert qu'à 20%.
Donc, ça, c'est des jeux très compliqués qui demandent justement. Enfin, très compliqués. Avec beaucoup de règles, un gros pavé de règles qui vont demander des fois que des joueurs connaissent les règles. Donc, le MJ partage la responsabilité de la connaissance des règles avec les joueurs. Mais en même temps, ça fait venir un groupe de joueurs qu'on va nommer les relativement relous. Ils sont très sympas quand t'es d'accord avec eux et très chiants quand la moindre règle publiée en page 341 paragraphe 2 va leur donner un avantage. Et t'as les jeux beaucoup plus permissifs au niveau des règles, où je trouve que ça quand même beaucoup plus sympa que bah, c'est pas grave s'il y a que le MJ qui connaît les règles, parce que du coup tu as, attention, point narrativiste, bah, tu peux te concentrer sur l'histoire.
Ouais.
Tu peux te concentrer sur le truc et les joueurs ils ont pas besoin de dire oui alors je fais ça donc je lance le dé pour faire cette action, j'ai 50% de chance de réussir, ce qui m'emmène à une synergie avec telle compétence que machin. Non, il dit je fais ça, mon personnage fait ça et puis point barre, et puis il lance un dé parce que le MJ lui dit lance un dé, le MJ il regarde, le joueur il a peut-être foutrement aucune idée et foutrement aucun besoin de savoir quel est son score exactement, parce que tout ce qu'il a besoin de savoir c'est le résultat que ça donne et qu'est-ce qu'à partir de ce résultat il va pouvoir faire derrière.
Donc, vous avez vu que cet épisode commence à déjà dépasser la barre de la demi-heure. Donc, la discussion nous a amené plus loin que ce qu'on pensait. Pour faire un peu les coulisses au coin de la table, donc peut-être un peu sous la table, là, on est dans ce qu'on fait pour préparer le podcast, c'est qu'on parle un petit peu du sujet en amont, on discute entre nous, on a des éléments sur lesquels on a prévu de parler. Mais la discussion est relativement spontanée, hein. C'est vraiment quelque chose, un échange qu'on fait. Donc là, ça nous a amené un peu loin. Du coup, on va s'arrêter là. On verra si on reprend ou pas une version sur justement les enjeux politiques en interne d'une partie, donc créer du dilemme, des enjeux politiques reproduits de la vie réelle dans le jeu de rôle, mais vraiment dans la partie. Et en attendant, on va clôturer ce diptyque sur jeu et politique pour passer sur d'autres horizons à partir de mai prochain.
Eh ben, ça me paraît bien, tout ça.
Du coup, on se retrouve dans 2 mois, et d'ici là,
jouez bien.